Vous êtes sur Radio RDL 103.5 et je reçois Miguel Schema. Bonjour. Bonjour Miguel Schema.
Bonjour.
Bonjour. Pour votre livre La santé et politique, qui est un des livres proposés par le Festival du Livre de Colmar, et moi je suis très content d'avoir des précisions sur ce livre que j'ai lu avec plaisir. Et vous êtes encore pour l'instant étudiant cinquième, sixième année?
En sixième année,
voilà.
C'est la dernière année de la fac avant.
Voilà, bah, avant vous êtes quand même un petit peu médecin quand même. le livre est, je dirais, important dans la mesure où il pose un certain nombre de problèmes. Il est aussi, militant jusqu'à un certain point, parce que il pose la question de ceux qui sont mal pris en charge ou vraiment pas pris en charge par une médecine qui, par ailleurs, est une médecine qui se veut égalitaire et proche de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit, Miguel Schema, à tenir ce propos qui est quand même assez fort, je trouve?
Je pense que ça serait compliqué de revenir précisément sur le parcours qui a été le mien et qui m'a amené à poser ces questions-là. Je dois dire que j'ai fait le constat douloureux que la médecine se pensait comme une pratique détachée du monde social. Et comme si il y avait un certain nombre de systèmes de domination qu'on pouvait trouver partout ailleurs dans le monde. Le sexisme, le racisme, le mépris de classe, etc. Et on avait l'impression que le monde médical s'imaginait en dehors du monde social et totalement exempt de tous ces biais qui sont pour la plupart du temps inconscients. Et au cours de mes études, je faisais le constat un peu douloureux que des patients, pour des raisons totalement arbitraires, pouvaient être pris en charge différemment. Je vais prendre l'exemple de la douleur, par exemple. J'étais dans un service d'urgence et une patiente qui présente une douleur, etc. Et une de mes chefs parle du syndrome méditerranéen. Ce syndrome méditerranéen est un syndrome qui n'a rien d'un syndrome, qui est né au XXe siècle, qui est une croyance dans le fait que les patients maghrébins auraient une propension à exagérer leur douleur. Ce qui est génial avec la douleur, c'est que c'est que du social, en fait, dans sa prise en charge et dans sa reconnaissance. Et étant donné qu'il n'y a aucun moyen objectif pour un soignant de mesurer cette dite douleur, ce n'est que parce qu'on, soit qu'on croit le patient, soit inversement qu'on l'imagine profiteur, tricheur, menteur, qu'on va remettre en cause sa douleur ou pas. Et donc, quand j'entendais parler de ce syndrome méditerranéen qui naît à l'époque coloniale, d'abord, ça s'appelait la sinistrose, et c'était un cliché qui était d'abord utilisé sur les travailleurs ouvriers qui avaient des complications liées au travail, et on disait que ces ouvriers-là exagéraient leur douleur pour avoir des bénéfices, et très rapidement, ça s'est concentré au niveau des travailleurs immigrés
africains.
Mais en fait tout ça, c'est un exemple parmi d'autres que j'explore
un exemple qui m'a intéressé parce que il renvoyait aussi à la question du langage.
Exactement.
C'est-à-dire qui prend pas mal de place dans votre livre, à savoir les gens qui ne parleraient pas le français ou qui parleraient mal le français, qui auraient besoin de traduction, qui ne l'ont pas, et où effectivement ou pour le médecin, il s'agit de, je dirais, interpréter des symptômes, mais ces symptômes sont d'un côté visibles et encore parce que il y a d'autres biais ou d'autres, je dirais, d'autres éléments qui l'empêchent, comme par exemple la peau noire, de penser qu'elle est plus
épaisse,
dure, plus épaisse, et qu'elle résiste mieux à un certain nombre de malheurs et de piqûres même.
Ouais.
Donc il y a là plein de choses, et au niveau du langage, ça joue énormément.
Ça a été vraiment l'un des constats les plus douloureux dans mes études. C'est de voir que pour les patients qui ne maîtrisent pas le français, on ne met pas en place les moyens adéquats pour communiquer avec eux, alors même que dans les hôpitaux dans lesquels j'étais, ces moyens étaient disponibles. Il existe depuis les années 80-90 des associations comme ISM Interprétariat qui mettent à disposition des interprètes avec une diversité linguistique assez fascinante, autant physique que par téléphone. Et je constatais qu'on ne faisait soit pas assez appel à l'interprétariat professionnel dans les services, soit pas du tout. Et donc, j'ai assisté à des interrogatoires avec des patients où on leur disait mal ou en criant, comme si parler plus fort français rendait le français plus compréhensible pour des gens qui ne le parlent pas. Et ce qui me fascinait, c'est pourquoi on n'utilise pas les moyens adéquats pour communiquer avec ses patients, sachant que la Haute Autorité de Santé dit que la seule manière éthique de communiquer avec des patients qui ne parlent pas français, c'est de faire appel à ces interprètes professionnels. Pas à la famille, pas à des soignants qui maîtriseraient cette langue. Et donc la question, c'est comment on traite les individus. Il y a une thèse qui a été d'une sociologue qui s'appelle Dorothée Prudhomme, qui a analysé ces enjeux-là d'interprétariat professionnel. Et elle interrogeait les médecins qui ne faisaient pas appel à ce moyen de communication. Et certains disent faire de la médecine vétérinaire. Alors ils disent faire de la médecine vétérinaire pour essayer de faire comprendre ce que c'est de soigner des gens avec qui on ne peut pas communiquer. Mais en même temps, ils ne se rendaient pas compte qu'ils utilisaient l'expression la plus adaptée pour analyser ce qu'ils faisaient, à savoir déshumaniser des individus. Je tiens à préciser que c'est pas un processus conscient, en fait, cette non-utilisation de l'interprétariat professionnel. C'est pas parce que des soignants seraient méchants, mais c'est qu'il y a inconsciemment l'idée selon laquelle, en fait, déjà un mépris envers les immigrés, une colère envers cette intégration à la française qui devrait être d'une certaine manière. Mais je pense qu'en tant que soignant, on n'est pas des agents de l'immigration. On n'est pas là à mesurer le niveau linguistique des individus, mais plutôt à les prendre en charge. Et comment fait-on pour prendre en charge les individus à qui on ne parle pas ?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je peux même vous donner un exemple, c'est d'ailleurs le mien, où j'ai déjà certains visages de vieux, en tout cas une vieillesse. Une fois qu'on est tout nu vis-à-vis du médecin, on ne sait plus trop, on n'est plus habillé, on ne sait plus trop. Et je me suis trouvé... assez récemment, devant un médecin qui est d'ailleurs d'origine d'Afrique du Nord et qui m'a pris pour un vieux, donc vraiment un vieux. Donc il a commencé à crier parce que les vieux, ça entend pas bien. Donc ça vaut du coup aussi pour ceux qui paraissent pauvres, qui paraissent vieux et quand ils ne parlent pas le français, alors évidemment, dès que l'autre parle, les choses sont un petit peu différentes, quoique, mais c'est assez général. Donc, on n'a pas affaire, je dirais, simplement à un propos, mettons entre guillemets, raciste, mais même si évidemment c'est ainsi que ça sort, mais c'est plus général. Exactement. C'est-à-dire les pauvres, les vieux, mais aussi évidemment ceux qui ne parlent pas et les femmes. Alors c'est très important pour vous la manière dont on s'occupe ou ne s'occupe pas, ou on maltraite les femmes.
Mais ce qui m'intéressait dans le travail autour de ce livre, c'était de montrer comment la pratique médicale était traversée par plein d'enjeux qu'elle ne maîtrisait pas. Mmh. Et la question, c'est si on a l'intention de traiter les individus de la même manière et de la meilleure manière possible, il faut faire un travail réflexif et analyser comment, qu'on le veuille ou non, notre pratique peut être traversée par un certain biais. Là, dans l'exemple que vous avez apporté, c'est un agisme puant, à savoir... ceux qui sont considérés comme vieux, c'est des enfants, c'est des gens qui ne comprennent pas, c'est des gens à qui il faut parler très fort, et on ne se met pas au niveau du patient, en le considérant comme un être humain qui est capable de comprendre. Le rapport soignant-soigné est un rapport de domination, mais qui peut être redoublé par des biais assez importants, la classe, l'âgisme, le genre,
et la race, du coup, sur lequel on, bien sûr.
Totalement. Et moi, ce qui était aussi douloureux pour moi, c'est qu'on est dans un système de santé français qui est financé par l'argent public, et on a tendance à croire que parce qu'il y a la carte vitale, tout est réglé. Et au fond, la question des enjeux de santé n'est qu'une question de son financement. Alors que pour moi, je pense que même si on avait le bon nombre de lits, le bon nombre de soignants, le bon nombre en fait tout était organisé de la meilleure manière possible au niveau financier, il y aurait un certain nombre d'enjeux qu'on ne maîtriserait pas si on ne n'analysait pas sociologiquement et historiquement la pratique médicale et ce qu'elle charriait au quotidien.
Oui, moi je trouve très intéressant. Alors je vais quand même vous demander, parce qu'ayant lu le livre, il y a un certain nombre d'exemples, entre autres de Rome. Oui. Et j'ai vu que vous aviez fait des études en Roumanie.
Oui.
Je peux vous demander ce que ça vous a apporté, et puis le passage ensuite en France. Est-ce qu'il y a une médecine différente ? Parce qu'aujourd'hui encore, pas mal de gens qui vont en Roumanie, par exemple pour les dents, pour autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
De fait, moi, au niveau linguistique, c'est aussi une question qui m'a travaillé. Je suis parti étudier à l'étranger Et donc, il était question d'apprendre le roumain. Et je pense que ça m'a rendu d'autant plus sensible à ce que je pouvais voir en France quand je faisais mes stages l'été à Paris. La question linguistique était déjà... En fait, j'avais pas tellement besoin de la travailler intellectuellement pour voir les enjeux. Je pense pour le cas de la Roumanie qui a un travail à faire sur l'analyse sociologique des maltraitances, du financement de l'hôpital public, et aussi, et je pense qu'il y a un système de santé à deux vitesses entre un système public largement sous-financé où ne vont essentiellement que les pauvres. Bon, c'est un peu caricatural, mais je pense qu'il y a vraiment un système à deux vitesses entre un système privé où vont les personnes ayant les moyens et un système public où les personnes n'ont pas forcément le financement de l'hôpital public étant ce qu'il est en Roumanie. Les infrastructures et les moyens alloués à la santé sont pas les mêmes.
Alors concernant les biais qui ne sont pas nécessairement conscients, mais aussi un certain nombre de préjugés que l'on peut avoir, votre livre développe de manière assez importante. Non seulement les femmes, peut-être qu'on y reviendra sur la question des femmes et par exemple des femmes qui accouchent, mais également la question des LGBTQI, etc. Alors ça vous tient assez à cœur et ça m'a intéressé parce qu'effectivement il s'agit quand même d'une fraction assez limitée de la population, bien sûr, quoi qu'on dise, on fait grand cas des woke, ils sont quand même pas un pourcentage assez incroyable, mais c'est dans les marges, c'est ce qu'a toujours fait Foucault, c'est-à-dire travailler sur les marges. C'est dans les marges qu'on voit comment ça fonctionne. C'est-à-dire une structure se manifeste là où elle est sur les marges, vraiment. Alors effectivement, quand on a le blanc qui vient du 16e arrondissement, qui connaît sa clinique, etc., ou qui connaît le médecin, on est dans autre chose. Alors ça m'a quand même intéressé parce que ça veut quand même dire que sur bien des plans, cette question d'une égalité aujourd'hui pour le plaisir, pour le désir, etc., n'est pas toujours perçue par un corps médical qui, lui, a un certain pouvoir quand même sur comment on mène sa vie, non pas seulement du point de vue de l'hygiène, mais du point de vue, de la sexualité.
Ce qui est fascinant, par exemple, quand il y a une très belle phrase de Foucault, d'ailleurs, dans Naissance de la clinique, que je citerai très mal de tête. Donc je renvoie les
éditeurs. Oui, mais c'est pas grave. On connaît un peu ce qu'a pu dire Foucault justement sur la psychiatrie aussi,
oui,
d'ailleurs.
Totalement. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, et les étudiants en médecine les premiers, et les soignants les premiers, comment la médecine a joué et parfois peut jouer encore un rôle de police de la normalité. Je vais prendre l'exemple des personnes LGBT. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gays, être gay était considéré comme une maladie mentale. Encore plus récemment, être trans était considéré comme une maladie mentale.
Une aberration, exactement. Comme le disait encore Freud dans les trois essais. Il a changé après, mais le terme aberration s'y trouve.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la médecine, au lieu d'être ce que devrait être son rôle, à savoir diminuer la douleur, accompagner les patients dans leur souffrance, essayer de la prendre en charge, joue un rôle de dire ce qui est normal et ce qui est pathologique. Un exemple plus récent et beaucoup plus concret, c'est les personnes intersexes. Le collectif intersexe France définit l'intersexuation comme les individus ayant des caractéristiques sexuées primaires ou secondaires ne correspondant pas à la catégorisation qu'on fait aujourd'hui d'hommes et de femmes. Et aujourd'hui, il existe encore en France des chirurgies de correction pour des personnes nées intersexes, qui auraient un clitoris, un pénis.
Oui, ça m'a frappé parce que ces exemples que vous donnez sont assez récents.
Oui.
Et par exemple, un clitoris qui aurait été trop grand, et bien on le diminue.
Exactement.
Parce que si cette personne trans veut être une femme, dans ce cas-là, il faut qu'elle soit comme les femmes, alors qu'en fait, elle perd tout intérêt et tout plaisir à partir de là.
La France a d'ailleurs été condamnée à de nombreuses reprises pour ce qu'on doit considérer comme des mutilations pour ces chirurgies de correction et du fait de ne pas les avoir interdites. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a une personne intersexe, on décide que cette personne intersexe est une femme. C'est aussi une question, sur quoi se base-t-on pour dire que c'est une femme ou c'est un homme. Et à partir du moment où on a considéré que c'était une femme, l'un des exemples que je reprends dans le livre, c'est l'exemple de Mo, qui a été d'abord assigné homme, puis quelques semaines après assigné femme, à qui on a dit que son clitoris était trop gros. Et donc, on a réduit son clitoris. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la pathologie ne renvoie pas à l'organe en tant que tel, mais à partir des catégories de perception. C'est-à-dire que tout d'un coup, si il avait été considéré comme un homme, ce clitoris aurait été trop petit. Mais étant donné qu'il a été considéré comme une femme, il était trop gros, donc il a été réduit. Cette réduction du clitoris, on peut l'appeler aussi excision, à savoir diminuer le plaisir. Mo raconte d'ailleurs dans le documentaire que je cite dans le livre qu'il a perdu du plaisir après cette chirurgie, parce que en fait ces chirurgies produisent des cicatrices et donc diminuent les territoires nerveux correctement innervés, et donc le plaisir. Et ce qui est aussi intéressant, c'est je cite aussi Michel Rasse, qui est une sociologue qui a travaillé sur l'intersexuation et qui montre que le plus souvent ça a été le choix du sexe féminin qui a été choisi, parce que c'est beaucoup plus facile de construire des organes sexuels féminins que masculins. Donc précisément, là c'est aussi la question de la norme et de ce qui est imposé.
Enfin, je trouve assez intéressant qu'on ait pu parler malgré tout ça, c'est pas si évident. Hein. Je pense que le type de discours que vous tenez, en tout cas le type d'intérêt que vous avez et ce que vous êtes à l'intérieur même du monde médical, c'est très important. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce livre qui, par ailleurs, est vraiment intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup, Michel Chema.
Merci pour votre invitation.
Mais je vous en prie.